15 au 17 mars 2012, le Merlan, scène nationale, accueille Nour. Nour, c'est une pièce proposée par le GDRA.
Qu'est-ce qu'une personne?
Je suis quoi? Je suis une personne.
Nour, c'est le deuxième volet d'un triptyque qui est intitulé Singularité ordinaire.
Populaire où les êtres sont désarmés. Allez, plonge, je veux plonger avec.
Et Nour, c'est le destin d'une jeune femme, évoquée, documentée et interprétée par Christophe Ruy, Julien Cassier, Sébastien Barrier, ainsi que Nejma Benchaïb et Domi Giraud. Sébastien, Christophe, bonjour.
Bonjour.
Alors que le premier volet de Singularité ordinaire croisait les destins de trois personnes, Nour se concentre sur le récit d'une seule vie. Mais en même temps, on y retrouve un processus d'écriture qui est un petit peu la marque de fabrique du GDRA, puisqu'il est réalisé à base de récits de vie collectés ici ou là. Alors peut-être pour commencer, racontez-nous ces rencontres, ce travail documentaire qui a nourri la création de Nour.
Alors, en fait, à la base, l'écriture de Nour, justement, part d'un prédicat qui est celui de réaliser une fiction. On est dans un trouble permanent entre la fiction et la réalité. Il y avait la volonté de poursuivre l'écriture de Singularité ordinaire, donc de toujours traiter, en effet, des parcours de vie, de la biographie, et de continuer à se poser une question quelque peu désuète, mais qui peut avoir sa profondeur si on y passe un peu de temps, voire devenir insondable. Qu'est-ce qu'une personne? Et pour ce faire, beaucoup d'éléments autobiographiques, avant que je n'écrive le texte ou que les premières pistes de mise en scène soient proposées à mes amis, venaient nourrir ce questionnement. Qu'est-ce qu'une personne? Et plutôt que de faire une autobiographie, et c'est notre, en effet, peut-être marque de fabrique, on s'est dit on va faire un petit détour par notre environnement, par la réalité. Et donc, moi j'avais envie de traiter d'une question où le biculturalisme, le bilinguisme, la question de la langue est présente, parce qu'elle est présente dans ma famille. Et mes premières grandes altérités, lorsque j'avais 10 ans, dans l'Aveyron, eh bien c'était des amis que j'avais rencontrés lorsque j'étais adolescent. Voilà comment on écrit en fait. On écrit nous toujours dans un creuset qui se situe entre l'autobiographie, celle de Julien, Sébastien, la mienne, et des rencontres que l'on fait. Et en fonction d'un prémisse d'écriture, d'un cadre d'écriture, que je propose à mes amis, on enquête sur des terrains spécifiques. Il arrive même parfois qu'on cherche des profils types. Par exemple, pour nous accompagner au plateau dans l'écriture de Nour, dans l'écriture scénique, à un moment on s'est dit pour trembler avec le personnage de Nour, pour trembler avec la fiction du personnage de Nour, il faudrait que l'on trouve une jeune femme qui elle aussi pourrait avoir des parents algériens, marocains, qui elle aussi pourrait s'intéresser au hip-hop, qui elle aussi pourrait se poser des questions de transmission, et on l'a trouvé. Nejma Benchaïb. Et ensuite, on s'est dit, il serait intéressant aussi que pour jouer les environs de la famille de Nour, et pour bien spécifier qu'on ne fait pas du tout un spectacle sur l'immigration, pas du tout un spectacle sur l'Algérie, le Maroc, mais un spectacle sur la famille, il serait bien que l'on trouve une personne qui ne soit pas algérienne, pas marocaine, mais qui pourrait venir jouer des personne algérienne et marocaine. Et c'est Domi Giraud qui est de Saint-Étienne et qui, avec son corps, son morphotype caucasien, vient à des moments jouer la grand-mère de Nour. Et nous aimons ce tremblement entre les personnes, les personnages, entre les identités qui sont toujours fragiles, en mouvement. Et c'est ce qu'on essaie de raconter à travers ce théâtre-là. C'est que les choses sont, bien sûr, flottantes en termes d'identité et transmissibles et appropriables. Totalement appropriable.
Une série de rencontres et puis quelque chose qui vient de vos propres vies pour nourrir cette série d'entretiens filmés qu'on retrouve mis en scène dans la pièce. Alors bien sûr, il y a une transformation, il y a une transfiguration de ces entretiens dont on comprend qu'ils sont entre réalité et fiction pour un personnage au fond qui émerge d'une manière composite. Quelle éthique vous avez à propos de ce traitement des entretiens? Quelles sont les choses que ces rencontres vous ont révélées réservez et que vous mettez dans le spectacle, quelles sont celles au contraire que vous réservez à la sphère de l'intime et du privé?
C'est une question centrale dans notre travail et
Christophe Ruyghe,
qui nous poursuit un peu. Donc, quelle éthique, le temps long, passer du temps avec les gens, prendre le temps, venir, revenir, se permettre le temps de l'approche, se permettre le temps du regard, se permettre le temps de l'hésitation, se permettre le temps de la fragilité, le temps du vide. Il y a beaucoup de silence des fois dans les entretiens que l'on mène, et se permettre le temps de l'enquête. Et quand je vous parle d'enquête, ce n'est pas d'une enquête statistique qui serait menée par l'INSEE, c'est une enquête quasi ethnographique. Avant de faire du théâtre, je faisais de l'anthropologie à l'école des hautes études en sciences sociales, et c'est ce background-là qui se retrouve dans notre travail. Et donc, ce sont des règles d'enquête qui sont très simples. On ne parle pas d'une personne quand on n'a pas partagé le vécu avec elle. On laisse valider à une personne ce que l'on dit d'elle, ce que l'on montre d'elle. Toutes les personnes à partir desquelles nous écrivons nos pièces sont au courant du processus d'écriture, voient des étapes de travail, valident, invalident des endroits de l'écriture. Et donc, c'est quand même plein de diplomatie et de longues précautions. Et parfois, ce n'est pas suffisant. Par exemple, nous avons joué Singularité Ordinaire l'année dernière, ici, à Marseille, au Théâtre du Merlan. Et pour Singularité Ordinaire, nous avons pris un temps dans un quartier de Marseille, où nous avons rencontré des personnes qui nous ont bouleversés, vraiment déplacés, touchés. Et nous avons voulu raconter ça, notamment à travers le témoignage d'une personne qui vit en ces lieux, qui s'appelle Michel Eclounaté. Et jusqu'à maintenant, tout se passait bien. Et puis hier, dans la presse, est sorti un article où, visiblement, on n'a pas pris, nous, toutes les précautions nécessaires pour que notre rapport éthique au réel et au témoignage soit complètement pris en compte. Et peut-être qu'on s'est trompé, d'ailleurs, nous, ça arrive dans les processus d'écriture. Nous, ce qu'on a voulu raconter sur ce lieu, c'était la solidarité, la convivialité, l'interculturalité, la fraternité. Et une journaliste y a vu un propos sur le racisme. Et d'un seul coup, cet article sort, le lieu est mentionné, et il est écrit où coule un flot de racisme. Et tout hier, on a eu, nous, à gérer des coups de fil de la part des personnes concernées, qui étaient très en colère contre la journaliste, qui sont descendu dans le journal. Apparemment, ça a été, il y a eu de l'engagement physique qu'on ne cautionne pas. Mais par contre, on cautionne cette colère-là en moment. Bien sûr, nous, on l'a exprimé différemment, on en a discuté avec la journaliste, mais voilà, là, on est au cœur de cette éthique du temps long. Et ce pacte de conscience, vous avez employé le mot d'éthique, c'est un mot fort, mais c'est ça, en fait. Il y a une éthique, il y a une morale à travailler avec le terrain. Et cette morale, c'est le temps long. Et on ne peut pas écrire n'importe quoi à la va-vite, comme ça. Et voilà, c'est un exemple où là, nous, on s'est un peu laissé dépasser. Mais pour nos écritures à venir, on a toujours cette précaution-là. De quoi on parle? Quels sont les thèmes abordés? Qu'est-ce que les personnes particulièrement concernées par le propos que l'on avance ont à dire sur la question? Qu'est-ce qu'elles nous ont dit? Quel est leur vécu? Et on va dans les lieux. Parce que voilà, ça fait partie de la prise de risque, quand même. Il y a une prise de risque lorsqu'on écrit avec le réel, à partir de matières vives. Ces matières-là, elles sont interprétables de manière dynamique. Il peut nous arriver quelque chose. Monde scientifique dans lequel on a encore un peu pied.
Christophe Ruyghe.
On était encore invité à Sciences Po à Paris pour animer un séminaire dans l'école des arts politiques de Bruno Latour. je vais faire animer un séminaire à la Sorbonne à la fin du mois, après on va à Nanterre. Je veux dire, il y a des anthropologues, des ethnologues qui trouvent que notre travail est une forme de transfiguration de l'anthropologie scientifique et finalement une façon d'en faire. Et donc nous, on est assez proche dans le mouvement des sciences humaines d'un mouvement de pensée qui nous a beaucoup influencé, qui spécifie qu'il n'est impossible d'avoir un point de vue entièrement objectif sur le réel. La fiction est immanente à la réalité, Clifford Geertz, grand anthropologue américain, et le geste fictionnel est immanent au geste anthropologique. Donc on peut lire les grandes monographies d'anthropologie, de sociologie, d'ethnologie. On voit bien qu'on a affaire là à des personnes. Ces scientifiques-là sont des personnes, elles aussi, prises par un terrain, prises par un état vécu, prises par des doutes, qui écrivent sur d'autres personnes. Nous, on transfigure ce travail-là dans une proposition artistique qui admet d'emblée cet état de subjectivité et de relation et qui laisse la place aussi au public pour se faire son propre point de vue.
Amine, t'es content de toi ?
Ne partez pas ! Le problème, c'est pas moi ! Le problème, c'est Racine ! Le problème, c'est l'argent, c'est pas les pauvres, le problème ! Le problème, c'est ce dont on n'a rien à faire qu'à travailler comme des chiens ! J'en peux plus, j'aménage, on partait d'ici ! On n'a rien à faire ici, on se désarme !
Les parents de Nour, maman algérienne et père marocain, ont immigré en France dans les années 70. Pour autant, entre papa sévère et maman qui négocie entre résistance et tradition, c'est au fond une structure familiale très traditionnelle, et on pourrait dire quasiment universelle. Sébastien Barrier.
C'était aussi l'intention quand Christophe raconte qu'on ne voulait pas faire un spectacle sur l'immigration et qu'on touche là à des choses effectivement universelles. C'était tout l'objet de cette écriture, les rapports de transmission, assumés ou pas, conscients ou pas, ne concerne évidemment pas que les familles qui ont fait ce voyage. D'ailleurs, il nous arrive aussi de rappeler qu'entre un métissage algéro-marocain et un métissage entre Lot et l'Aveyron, un métissage entre Marseille et le Pas-de-Calais, voilà, il y a métissage, il y a assemblage de cultures, il y a complexité d'une transmission parce que les informations sont variées, profuses, riches. C'est ce qu'on veut raconter aussi. On peut citer, j'imagine, Christophe, l'ouvrage de Catherine Delcroix, qui a été aussi une des sources de nourriture pour écrire ce spectacle, qui a écrit un livre dont le titre était « Ombres et lumières de la famille Nour ». Ça n'est pas la seule raison qui a donné ce prénom à notre héroïne.
Nour, ça veut dire lumière.
Lumière, hein, voilà. Il se trouve que c'est aussi le nom du fils, d'un des fils de Christophe. C'est aussi le nom, et c'est un joyeux, troublant hasard de la fille de Driss Jaboui, qu'on voit danser à la fin. Et dans ce livre de Catherine Delcroix, « Ombres et lumières de la famille Nour », donc, une étude de terrain, d'ethnologie, je crois que c'est 5 ou 6 ans de terrain, donc on est sur une temporalité longue. Alors, ombres et lumières, donc des ombres bien sûr, des difficultés, beaucoup, 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 beaucoup de lumière aussi, donc de la ruse, de l'aménagement, de la réaction. On parle à un moment de la capacité de la personne à agir, à résister, à planifier. Une famille immigrée qui se reconstruit ici ou qui se construit ici ne fait pas que subir la situation. Elle s'en empare parfois. Et donc on s'est beaucoup inspiré de ça, c'est aussi le sens de la présence de Nour et de la figure de la jeune femme dans cette famille-là, en tout cas, qui montre que dans cette famille, en l'occurrence, et c'est intéressant, ce sont les femmes qui s'en sortent le mieux. Ce sont les femmes qui parviennent à rebondir. Ce sont les femmes qui, s'appropriant toutes ces nouvelles données, tiennent un peu la maison, quoi. Et ce sont souvent les hommes qui sont perdus. Le rapport d'autorité est différent. Les rapports entre les hommes et les femmes à vivre ici sur ce territoire, sur ce terrain français, sont différents de ce que la culture racontait là-bas. Donc c'est ça qu'on raconte aussi. Voilà.
Et après, un petit complément aussi, le choix du prénom Nour, Lumière, on a une approche, nous, assez sacralisante, personnaliste de la personne. Une personne, c'est irréductible, c'est précieux. Beaucoup de personnes partagent ce sentiment avec nous. Mais nous, on décide de le dire aussi naïvement que je viens de vous le dire. En l'occurrence, chacun d'entre nous est doté d'une force intérieure et d'une lumière. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce prénom pour Nour. Et donc, à un moment, vous pourriez être Nour, auditeur, journaliste à la radio. Mais chacun d'entre nous, je pense, peut rattacher une question à la biographie de Nour et trouver en cette lumière-là un rapport à soi.
Je parle de culture populaire, je parle d'esthétique et d'éthique populaire, pleine de vitalité, de créativité. Nour et ses amis inventent les arts de faire et les esthétiques. Je sais que cela peut choquer les marxistes et les conservateurs de droite, mais voilà un état vers lequel on converge. De rien qu'à le faire, les expressions populaires, il sépare un art
situation classique d'appartenance multiple à laquelle elle réagit par la créativité. D'accord, c'est une façon de voir. Son identité se multiplie, se fissure dans les fous, cette identité diffuse et vivante, comme celle de tout sujet. Ok!
La culture, sa marque, son identité, c'est ce qui entre dans les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et ce que l'on touche de la main.
Le récit, le corps, la musique, trois éléments qui se complètent pour évoquer ce destin de vie, et pas uniquement des entretiens, et pas uniquement des références, et pas uniquement l'étude, il y a aussi la danse et la musique, quelque chose d'intime, de corporel, de fort, d'émotionnel, une façon aussi d'aller au-delà de l'enquête, et peut-être de convoquer le non-dit, au fond, dans cette narration.
Ah, je suis complètement d'accord.
Christophe Ruyghe.
Et puis ça me fait plaisir que vous nous lanciez sur cette piste. Je pense que quand on aborde cette question, qu'est-ce qu'une personne ? Il y a de l'ineffable, il est très difficile d'y répondre. De grands philosophes comme Paul Ricoeur ont écrit une vingtaine de livres sur la question en ayant le sentiment de la laisser toujours ouverte et ne pas pouvoir y répondre. Et parfois, le corps du danseur dans l'épreuve, je me dis mais bien sûr que c'est aussi ça en fait, c'est aussi simple que ça, voilà, ça c'est la personne, ça c'est le récit de la personne dans l'épreuve. Comment en quelques gestes on peut synthétiser certaines grandes propositions philosophiques, quelques gestes d'un corps dans l'épreuve. En tout cas nous, c'est là aussi que nous aimons travailler avec la danse, avec le corps et le corps engagé.
En engagement fort, hein, qui va parfois jusqu'aux limites de la souffrance.
Tout à fait, ça aussi c'est une école stylistique, hein. Nous on aime beaucoup...
Celle du cirque.
On se situe peut-être au croisement de deux écoles, celle du cirque en effet. Nejma et Julien viennent du monde du cirque, où l'épreuve du corps est particulièrement forte. Je pense qu'il y a chez les circassiens, et on n'est pas les seuls à le défendre, je pense à Guy Alloucherie, je pense à David Bobet, on est beaucoup à défendre ce point de vue-là. Il y a dans le corps du circassien quelque chose d'extrêmement dynamique, narratif, qui nous dit très bien ce qu'est une personne à un moment donné, à savoir quelqu'un qui est sur la brèche et qui prend réellement des risques et qui est dans l'épreuve. Mais dans certaines écoles chorégraphiques, ça va très très loin aussi. Je pense à l'école flamande, on voit un spectacle de Wim van de Caybus, les corps sont à l'affrontement, les corps tombent, les corps chutent. Et ça, j'y trouve vraiment quand même une métaphore de la biographie.
Alors la programmation de ce spectacle, Nour, s'inscrit dans le cadre de la première édition d'une biennale qui s'intitule « Biennale des écritures du réel » et qui s'efforce d'élargir à d'autres champs et d'autres disciplines une pratique théâtrale qu'on qualifie de « documentaire ». Théâtre documentaire, vous vous retrouvez, vous, dans cette définition, Sébastien Barrier?
Ça fait 7 ans que le GDRA existe et 7 ans qu'on nous pose la question, comment vous résumeriez-vous en 2 ou 3 mots votre pratique? Alors, nous, ce qu'on aime bien rappeler, c'est que le GDRA est constitué de 3 personnes au parcours différent. Christophe qui vient donc du milieu universitaire et de la musique, Julien qui vient du cirque et de la danse, et moi qui viens plutôt des arts de la rue, disons d'une expression un peu spontanée dans l'espace public. Donc si on réunit ces 3 savoir-faire, c'est difficile de tenir en 2 mots. Donc on a parfois usé de ce raccourci, théâtre documentaire. En ce moment, on aime bien dire théâtre documenté. Ce qui est sûr, comme on le rappelait il y a peu, c'est que nous avons besoin de nous nourrir du réel pour écrire nos formes. Ce qui est sûr aussi, c'est quand on réfléchit au 3e tome qui est en train de voir le jour, on se dit que peut-être aussi on va moins avoir recours à ce principe d'écriture et peut-être on va aussi oser faire des écritures qui sont encore plus endogènes, on peut dire, et qui ne partiraient que de nous, qui pourraient se passer pour le coup de cette approche anthropologique du monde. Cette terminologie, elle est intéressante, hein, parce que c'est la façon de nommer les choses en dit long sur les choses en question. Mais théâtre documenté, ça nous va bien.
Christophe Ruyghe.
Lorsque nous avons joué à Avignon en 2010, il y avait une petite effusion journalistique. Voilà, il fallait nous classer un temps et à un moment était apparue la dénomination théâtre anthropologique. Et moi, je l'aime beaucoup, en fait, cette dénomination, parce qu'elle désamorce la question de la fiction et de la réalité. Le théâtre anthropologique, Anthropos l'homme, Logos, discours sur l'homme, donc Shakespeare, c'est du théâtre anthropologique, Rodrigo Garcia, c'est du théâtre anthropologique,
tout le théâtre est anthropologique.
Schweitzer, c'est du théâtre anthropologique, la Nid Company, c'est vraiment du théâtre anthropologique, le GDRA, c'est du théâtre anthropologique, sauf que dans le GDRA, on fait aussi appel à cette discipline universitaire-là, donc finalement, ça l'est doublement peut-être. J'aime bien cette dénomination, parce que théâtre documentaire, ça impliquerait une approche approche du réel qui permet un point de vue zéro, un point de, c'est pas péjoratif, hein, un point de vue neutre sur la réalité.
L'échelle 1.
L'échelle 1, voilà. Et, mais je le redis, nous ne croyons pas en ça, nous sommes beaucoup plus relativistes que ça. Le point de vue objectif sur le réel, je l'attends toujours, voilà.
Mais très vite, les jeunes ont voulu apprendre la darja, l'arabe dialectal algérien, puis aussi le français, pour travailler chez le patron, pour faire chic, pour faire moderne, pour survivre. Alors nos langues de bouc, de paysans, de chasseurs-cueilleurs, ce n'était plus vraiment l'actualité. Tu comprends ça, ma fille? Les ethnologues nous ont placés dans le groupe des amazigh-alifins, les missionnaires nous ont rangés dans la catégorie des sauvages, les français nous ont jetés dans la caverne des rebelles et des ignorants. Les patrons et les propriétaires ont fait de nous une main-d'œuvre facile, les bras en rien, juste à trier. J'étais née dans une maison troglodyte, datée de plusieurs siècles, qui s'ouvrait sur un horizon des terres plantées d'arbres. Et maintenant j'habite un appartement fermé, construit en 1970, et dont je ne sors plus, seule.
Le réel, c'est aussi l'actualité. Alors, on a bien compris que Nour n'est absolument pas une pièce sur les rapports entre la France et l'Algérie ou entre la France et le Maroc. Mais malgré tout, cette relation entre la France et l'Algérie, elle résonne particulièrement aujourd'hui, puisque on commémore, ou plutôt on ne commémore pas, les accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, 1962-2012, et puis rien du tout. Alors, sur ce silence assourdissant, qu'est-ce que vous en pensez ?
Sur la question, je suis peu documenté.
Christophe Ruille.
Par contre, j'ai un oncle que j'aime beaucoup, avec qui j'ai souvent discuté de ce qu'il a vécu là-bas. Et je me dis qu'il y a vraiment un effort de mémoire qui n'a pas été fait, qu'il y a un travail de verbalisation qui n'a pas été fait. Vous parliez d'un silence assourdissant. Il l'est, je crois qu'il l'est vraiment. Alors c'est encore peut-être un peu frais dans l'histoire, dans les universités.
50 ans quand même.
Oui. Mais sur le temps, Michel Serres dirait, sur le temps long, 50 ans c'est rien, ne l'oublions pas. Mais il est vrai que ça n'a pas eu le même traitement, par exemple, que la Seconde Guerre mondiale. C'est étrange, qu'est-ce qu'il se passe à ce niveau-là ?
Il a fallu attendre 1999 pour qu'on prononce officiellement le mot de guerre d'Algérie, c'était auparavant des événements. Mmh. Il a fallu attendre les années 80 pour qu'enfin dans les manuels scolaires d'histoire, on détaille un petit peu ce qui s'était passé en Algérie. Enfin, il est temps de sortir de ce non-dit, non ?
Complètement d'accord. Après, je pense que là aussi, ça passe par un travail d'approche très qualitative des personnes qui ont vécu la situation, que les historiens essaient, à mon avis, de faire à l'université. J'ai peu lu sur la question, je suis peu au courant, mais j'ai quand même eu la sensation que mon oncle n'attendait que ça, qu'un micro enregistreur vienne un moment recueillir son témoignage, et qui serait, à mon avis, un témoignage en partie, vu la qualité des larmes, hein, je le connais bien, je l'aime beaucoup, de repentir. Et je pense que ça lui ferait vraiment beaucoup de bien de pouvoir le dire une bonne fois pour toutes. Il faut pour ça un dispositif de recueil de la parole. Et pour ça, il faut que...
Et c'est peut-être là où un travail comme le vôtre peut être utile, justement, la convergence entre l'histoire, l'étude scientifique, et puis une pratique artistique pour libérer des paroles, justement.
Dans Singularité ordinaire, Michel, à qui on fera de toute façon écouter l'enregistrement de l'émission, donc elle pourra peut-être nous taper sur les doigts si elle pense que c'est nécessaire, mais Michel nous a dit, au cours de l'écriture, « Ah mais moi j'ai plus besoin d'aller chez mon psy, quoi. Il y a des choses que j'ai pu dire là et qui m'ont fait du bien. » Donc quand ça se passe bien, les écritures à partir du réel, ça peut faire du bien à tout le monde.
Nour était le deuxième volet de Singularité ordinaire. Alors on attend évidemment avec impatience le troisième volet. Il est en chantier, Sébastien Barrier.
Il est en chantier. Ouais, pas encore dans ce que nous on appelle le bac à sable, qu'on appelle aussi parfois le plateau. Donc on n'en est pas encore à l'étape des répétitions, de la recherche dans les corps, dans le texte, dans la mise en scène. On en est à l'écriture. Christophe a déjà fomenté une écriture qui se précise. On peut peut-être dire qu'on a envie de parler du soin, de la norme, de la pathologie, de ses frontières entre normal et pathologique, de la façon dont on considère, dont on s'intéresse à ces pathologies ici en Occident et plus loin. Comment on traite ça au Mali, comment on traite ça en Inde. Qu'est-ce qui fait que des personnes qui sont chez nous considérées comme victimes ou dangereuses ou différentes ou inutiles sont dans d'autres cultures ou civilisations des paroles qu'on entend, qu'on écoute, dont on favorise l'émergence et qui ont une véritable fonction, qui font du bien aux autres.
En attendant, on va pouvoir revoir, je dis ça parce que Nour était programmé seulement 3 jours au Merlan, c'est un petit peu court, et on aurait très envie d'imaginer qu'on puisse revoir bientôt ce spectacle à Marseille ou dans la région, peut-être à Avignon.
Alors à Avignon, il n'y a rien de pressenti encore. Le spectacle va jouer l'année prochaine, mais pas trop dans la région. Alors il y a encore des dates qui vont se caler, pour ça on invite les auditeurs que ça intéresserait à aller voir notre blog.
Tu en rappelles l'adresse ?
Je la connais pas par cœur, mais Google, le GDRA, et puis ça ira très vite. Et une dernière précision, ou je ne sais pas si c'est la dernière, mais une petite précision. En fait, Nour, c'est le second tome d'un triptyque qui s'appelle La Personne, triptyque de la personne, et dont le premier tome est Singularités ordinaires. Alors, c'est des petites préciosités d'auteur, pardon, mais ça me faisait plaisir de le préciser. Vu qu'on a eu un échange merci de qualité où on peut prendre le temps de la parole, ça change d'autres médias locaux.
Merci à Christophe Ruy et Sébastien Barrier qui nous ont parlé de Nour, leur dernière création. Et en attendant, la première édition de la Biennale des Écritures du Réel se poursuit jusqu'au 7 avril. Tout le programme est sur www.maisondeteatre.com.